Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette émission enregistrée à Nantes où se tient la troisième édition des Géopolitiques de Nantes, initiative de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Nous sommes dans un endroit mythique de la ville, le lieu unique, aujourd'hui au lieu de la scène culturelle nantaise installée dans l'ancienne biscuiterie Lu, lieu unique Lu, voilà pour la petite histoire. Pour cette édition de Géopolitique, regard sur le Proche-Orient et le Moyen-Orient où la question des recompositions géopolitiques ne cesse de se poser, chaque semaine apportant son lot d'éléments nouveau, l'entrée de la Russie dans le conflit rend la guerre plus complexe et la solution politique plus compliquée alors que le conflit est entré dans sa cinquième année. Risque de plus grande déstabilisation, d'escalade, conséquence de la faiblesse des Américains sur le dossier, de leur inaction, autant de questions alors qu'à New York, l'Assemblée générale des Nations Unies est elle aussi très largement dominée par la Syrie et marquée par de fortes tensions entre les pays impliqués aux agendas souvent différents. Nos invités, Yves Aubin de la Messusière, ancien ambassadeur de France, spécialiste du Proche-Orient et actuellement président de la mission laïque française, bonjour.
Bonjour.
Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, bonjour.
Bonjour.
Kader Aïteb Deraïm, historien, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste du Maghreb et de l'islamisme, maître de conférences à Sciences Po Paris et auteur de Derrière le mur des quartiers, paru aux éditions de l'Aube. Bonjour.
Bonjour.
Et Christophe Ayad, chef du service international du quotidien Le Monde. Bonjour.
Bonjour.
Voilà donc la question de la Russie qui se pose en Syrie. Est-ce que Poutine se comporte comme s'il avait la solution? Est-ce qu'il l'a? Est-ce que la Russie peut résoudre le conflit syrien? Qui veut répondre? Yves Aubin de la Messusière.
Bien, d'abord, il faut se poser la question, quels sont les objectifs de l'intervention militaire de la Russie en Syrie? Il est évident qu'il s'agit surtout d'assurer la survie d'un régime qui était au bord de l'effondrement. On avait d'ailleurs quelques indices, puisque lorsqu'il y a eu cet appel de Bachar el-Assad, c'était je crois au mois d'août, quand il demandait aux conscrits de rejoindre l'armée et qu'il bénéficierait de l'impunité et d'une amnistie. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que parmi beaucoup de réfugiés là que l'on retrouve en Europe, eh bien, il y a effectivement ces jeunes qui n'ont pas voulu rejoindre l'armée. Et il y avait aussi d'autres indices, c'était des réunions qui se sont déroulées à Moscou avec des responsables à la fois politiques et militaires syriens, et on sentait bien que c'était un appel à l'aide. Autre indice important, c'est aussi le renforcement de la présence iranienne à travers les Pasdaran, qui sont même, paraît-il, dans des unités combattantes. Et c'est pour ça que je suis surpris qu'on soit surpris, parce que les indices étaient là, mais effectivement, ce qui a peut-être surpris, c'est, disons, l'importance de l'intervention militaire de la Russie. Et alors maintenant, quels sont les objectifs? On voit bien que, parce qu'il y a des informations concordantes, certes, ils ont frappé l'État islamique, mais ils en profitent pour frapper aussi d'autres organisations, et notamment l'armée syrienne, mais puis même, paraît-il, une organisation qui serait soutenue ou formée par les États-Unis. C'est-à-dire que pour Poutine, c'est comme pour Bachar el-Assad, tout rebelle est un terroriste. Et donc on peut se demander quels résultats. Alors effectivement, avec des moyens assez importants, finalement, et donc une offensive qui est annoncée pour durer quelques mois, et je pense que l'objectif, c'est de permettre à Bachar el-Assad de reconquérir une partie des territoires syriens. Voilà l'objectif, disons, immédiat, mais il y a aussi un autre objectif qui est proprement politique, on pourra en parler tout à l'heure, et diplomatique, c'est que la Russie veut se placer au centre du jeu diplomatique, très présente, disons, dans la perspective d'une solution qui n'est pas, pour toutes sortes de raisons, pour demain. Et donc, quand on parle d'une confrontation avec les États-Unis, il n'y a pas de confrontation avec les États-Unis, parce que Barack Obama, la Syrie n'est pas une priorité. Et tout est fait pour éviter une confrontation avec les Russes, puisqu'il y aura maintenant une coordination technique. Et puis, pour Bachar el-Assad, son objectif, c'est de consolider l'accord nucléaire et donc aussi pas de problème avec l'Iran.
Alors, d'après ce que vient de dire Yves Aubin de la Messusière, donc en ce qui concerne les objectifs, assurer la survie du président Assad, plusieurs questions par rapport à cela. Peut-être la première, pourquoi cette défense du président syrien de la part de Moscou? Et ensuite, la question de l'intervention russe. Les Russes ne vont pas s'en tenir probablement à des attaques aériennes pour aller plus loin. Enfin voilà, le jour d'après, Didier Billon.
Tout d'abord, il faut renchérir sur ce que vient d'évoquer Ivo Benlamy-Suzière. Je suis étonné de l'étonnement. Parce que si on se replace en perspective, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, on peut en discuter, les Russes n'ont jamais cessé d'être au centre du jeu en réalité. On se rappelle, et je ne prendrai qu'un exemple, mais on pourrait les multiplier. En 2013, après l'utilisation des armes chimiques dans la banlieue de Damas, on se rappelle que la France, notamment de M. Hollande, était prête à intervenir par des bombardements aériens. Et que la France s'est retrouvée bien seule au milieu du gué par une initiative prise par les Russes, par Lavrov. Une initiative de type politique.
Le ministre russe des Affaires étrangères.
Le ministre russe des Affaires étrangères. Alors, on peut critiquer cette attitude de la Russie, mais c'était un coup de maître en termes de diplomatie et en termes politiques, conjointement avec son homologue américain, c'est-à-dire M. Kerry. On pourrait donc multiplier les exemples, mais jamais les Russes n'ont cessé d'être partis à la crise syrienne et partis à la solution de la crise syrienne, probablement, même si elle n'est pas malheureusement pour demain. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je remarque quand même le sens du timing des Russes. C'est-à-dire qu'ils profitent de l'Assemblée générale de l'ONU. Monsieur Poutine vient y faire un discours remarqué.
En début de semaine.
Alors qu'il n'était pas venu à l'Assemblée générale depuis 10 ans. Et comme par hasard, dès le lendemain, il y a un vote à la Douma, c'est-à-dire le Parlement russe, pour autoriser les bombardements. Ça, c'est déjà une série de choses qu'il faut avoir en tête.
Donc, retour de Poutine sur le plan diplomatique à New York, c'est cela que vous nous dites, Didier Billon. Et puis, retour de la Russie de façon forte et militaire en Syrie.
Et centrale, absolument. Alors, ensuite, quels sont les buts? Et vous demandez pourquoi ne veut-il pas lâcher Bachar? Mais il le lâchera un jour. Je ne sais pas quand. J'en suis intimement persuadé depuis de nombreux mois, voire depuis près de 4 ans. Aujourd'hui, il soutient Bachar. Parce que l'obsession des Russes, c'est qu'il y ait un vide absolu du pouvoir, que tout s'écroule, que le chaos soit rajouté au chaos. Mais il arrivera bien un jour, mais à l'issue d'un processus politique que l'on peut souhaiter, où Bachar devra retourner à ses chères études, je ne sais pas sous quelle forme. Mais ne croyez pas que les Russes soutiendront Bachar jusqu'au dernier jour. Ils le soutiendront jusqu'au moment où il y aura une solution politique mise en œuvre. Ça va être infiniment compliqué. Mais donc, ce soutien aujourd'hui, il est avéré parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et que les Russes, aujourd'hui, leur agenda, c'est de relancer le processus politique, y compris en s'appuyant sur des initiatives militaires.
Christophe Ayad.
Je voulais rebondir là-dessus. Moi, je pense qu'il est contraint de soutenir Bachar. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affection, d'attachement, ni de lien personnel entre Bachar el-Assad et le pouvoir russe. Bachar n'a pas grandi en Russie, il n'a pas le logiciel du cadre bassiste qui avait pu faire ses études à Moscou, etc. Mais Bachar est indispensable parce que il a fait comprendre à de multiples reprises aux Russes que si lui partait, le système s'écroulerait. Et donc, sans lui, le système n'est pas viable. Et donc les Russes ne peuvent pas espérer une Syrie dirigé par un pro-russe sans Bachar. C'est-à-dire que Bachar passe son temps à faire le ménage autour de lui et à couper toutes les têtes qui peuvent dépasser. J'en donne un autre exemple. C'est que en 2012 ou 2013, je ne sais plus la date exacte, les Russes font venir un opposant de l'intérieur, Alaouite, qui est assez respecté dans la région Alaouite. Quelqu'un de Kardaha, donc vraiment du cœur du régime. Il effectue une visite à Moscou et il revient à Damas avec un peu une sorte de lettre de recommandation des Russes qui est « va discuter avec Bachar, vous arriverez à quelque chose ». Il se fait arrêter sur la route de l'aéroport, il disparaît dans la prison militaire de Madze et on ne l'a jamais revu. Et je pense que le message de Bachar aux Russes était clair, c'est « si vous cherchez un remplaçant, il n'y en a pas ».
Alors, pour en revenir à la question de l'intervention russe, elle comporte des risques, Ivo Benlamy-Suzière, cette intervention. Quand on sait, en tout cas, c'est ce que disent les Occidentaux, que les Russes ne visent pas seulement des cibles de l'État islamique, mais celles de Syriens peut-être plus modérés, même si les spécialistes disent qu'il n'y a plus de modérés en Syrie. En tout cas, est-ce qu'on ne peut pas craindre que, d'une certaine manière, cette intervention génère une sorte d'union sacrée autour des forces de l'État islamique ? Yves Aubin-Denis-Suzier.
Oui, c'est possible. Là, on est en tout état de cause dans une escalade. Mais pour l'essentiel, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas imaginer qu'il y ait une confrontation d'une manière ou d'une autre avec entre Russes et Américains. Et parce que bon, la Syrie n'est pas une priorité pour les États-Unis là actuellement, mais ce qu'on peut constater, c'est effectivement, d'abord, c'est important de noter que Poutine a créé de facto une autre coalition à coloration chiite et qui va d'ailleurs se coordonner à Bagdad, ce qui laisse penser que la zone d'influence aussi de la Russie peut concerner aussi l'Irak, puisqu'il y aura donc une coordination entre les Russes, les Syriens, là bien entendu, les Irakiens, les Iraniens, et on y verra certainement le Hezbollah.
Donc c'est tout un déploiement de l'action russe, c'est cela que vous nous dites.
Oui, déploiement, c'est un, je dirais pas un retour. Enfin, la Russie a toujours été présente, c'est depuis des décennies, un demi-siècle, en Syrie. La Syrie a été toujours un point d'appui de la Russie, ce qui n'était pas le cas, enfin moins le cas là récemment concernant l'Irak. Donc là, il y a une extension. Alors, là où il peut y avoir, disons, indirectement une confrontation, c'est effectivement à travers ce qu'on appelle maintenant la coalition sunnite, donc qui agit beaucoup au Yémen, et donc sous l'égide de l'Arabie Saoudite, avec les pays du Golfe, et au-delà, avec d'autres pays. Donc il y a la Turquie. Et donc on voit que les Russes frappent des positions de l'État islamique, certainement, au moins une d'entre elles paraît-il importante, de l'armée syrienne libre, donc plus ou moins soutenue par les Européens et par les Américains, et aussi ce qui tourne autour du front al-Nusra, c'est une des mouvances islamiques qui sont maintenant aidées par les sunnites de manière très claire, c'est annoncé, avec des fournitures d'armement, ce sont les Saoudiens, les Qataris et les Turcs. Et c'est là où il peut y avoir aussi une escalade, parce qu'on peut imaginer que les Saoudiens, les Qataris et les Turcs arment encore davantage toutes ces mouvances radicales islamiques sans faire forcément, disons, la différence. Alors voilà, et puis, est-ce que l'intervention russe peut favoriser, disons, aussi des mouvements djihadistes ? On sait qu'il y a plusieurs milliers de Russes et de Tchétchènes qui sont là-bas sur place. Et alors voilà, donc je crois que effectivement, et les résultats, on voit que depuis un peu plus d'un an, donc les forces occidentales bombardent assez régulièrement, on parle de 7000 frappes avec des résultats. On est plutôt dans le containment, c'est-à-dire on arrive à contenir, disons, ces forces plutôt que dans l'éradication, puisque maintenant le mouvement, l'État islamique, donc, n'a plus d'avancée. Mais voilà, donc cette escalade sur le terrain et l'intervention russe, donc, elle ajoute à l'imbroglio, à la complexité de la situation, bien sur le terrain.
Kader Abderrahim.
Oui, j'étais en train de m'interroger sur cette idée qui fait floresse d'un axe chiite versus sunnite ou inversement dans une région qui effectivement a toujours été très travaillée par ces questions ethniques, culturelles ou religieuses ou tribales. Mon expérience, c'est que dans les opinions publiques musulmanes en général, pas seulement arabes, en réalité, l'axe, la fracture, elle est-ce qu'on cherche absolument à recouvrer une réelle souveraineté, et donc ça vient en opposition à l'Occident, qui a toujours été perçu, au moins depuis un siècle, depuis le démembrement de l'Empire ottoman, comme étant des puissances tutélaires, ou coloniales, ou les deux, et qui aujourd'hui, plus que jamais, sont honnies par les opinions. Et il y a une fracture à l'intérieur de la fracture qui concerne, dans certains des pays qu'on évoque, ça vaut évidemment pour le Moyen-Orient, mais ça vaut également, c'est un raisonnement, c'est une démonstration qui est aussi très opérante au Maghreb, c'est les régimes politiques qui sont dans un camp plutôt que dans l'autre. Et c'est la raison pour laquelle je suis pas, j'ai jamais été friand, et en plus la démonstration de l'histoire récente ne vient pas soutenir cette démonstration d'une confrontation entre musulmans sunnites et musulmans chiites. Elle est surtout politique et idéologique. On est au moins d'accord là-dessus.
Tout à fait d'accord.
D'accord. Et que donc, ce qui fait vraiment la différence Et les positionnements des uns et des autres, c'est savoir comment on se positionne par rapport aux États-Unis, à l'Arabie Saoudite, etc. Et c'est pour ça que je voudrais souligner cette dimension-là qui est très importante. Il faudrait pas imaginer une seconde. Je me souviens, je prends juste un exemple, en 1990, je crois qu'on était ensemble, Christophe, lorsque Hassan El-Tourabi avait organisé cette première conférence à Khartoum. La conférence de Khartoum, je ne sais plus comment il avait nommé, qui était vraiment un homme extrêmement articulé politiquement et qui était l'éminence grise du régime soudanais. En réalité, qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Il cherchait à proposer une alternative à la captation religieuse qu'avait faite l'Arabie Saoudite sur l'islam. Bon, ça a été un échec, mais les Soudanais sont des sunnites, ne sont pas des chiites. Et donc, on est encore dans cette démarche-là. Il ne faut pas imaginer ou se laisser embarquer sur des terrains qui seraient, ou des analyses qui seraient vraiment fausses.
Didier Billon.
Radicalement d'accord. Simplement sur l'hypothèse évoquée par Yves d'une intervention saoudienne ou qatari ou turque. Ce qui est avéré, c'est un soutien.
Ah oui,
c'est ce que à l'armée de la conquête, ça c'est totalement avéré et revendiqué publiquement.
Armée de la conquête bombardée dès les premiers instants par les Russes.
On sait que l'armée de la conquête est structurée notamment par Al-Nusra, mais que les frères musulmans sont partis à cette armée de la conquête et que un certain nombre de groupes salafistes en font aussi partie. Ceci étant, je pense que là il y a des politiques de puissance régionale et que les Saoudiens finalement, eux aussi seraient bien satisfaits qu'une solution politique puisse se profiler, parce que leur problème à eux, c'est pas tellement la Syrie, même s'il y a eu beaucoup d'ambiguïté et d'aide saoudienne à des groupes djihadistes dont ils ont perdu le contrôle. Leur problème aujourd'hui, c'est le Yémen, clairement. Parce que le Yémen, et c'est historique, est un concurrent potentiel, alors pas en termes économiques, cela va de soi, mais parce que les Saoudiens ont peur d'une déstabilisation politique de la péninsule arabique. Les Qataris, ma foi, on connaît la réalité de leur puissance. Il y a eu quelques illusions au début de ce qu'on appelait les printemps arabes. Ils sont rentrés dans le rang, derrière les Saoudiens. La chose est réglée, au moins pour les mois et les 2-3 ans à venir, après je ne sais. Et pour ce qui concerne la Turquie, qui a eu l'illusion qu'elle pouvait avoir un rôle essentiel, voire même dominant dans le Moyen-Orient, on n'en est plus là. Qui parle aujourd'hui de modèle turc? Personnellement, je n'ai jamais utilisé cette expression. Mais on en a beaucoup entendu parler. Aujourd'hui, pour le pire d'ailleurs, la Turquie est polarisée sur ses enjeux, ses défis intérieurs, et par la question kurde, ça c'est une évidence. Donc en réalité, je suis d'accord avec ce qu'a évoqué Kader, il n'y a pas un bloc sunnite contre un bloc chiite, il y a des rapports de force politique, il y a des jeux de puissance régionale qui oscillent, qui ne sont pas donnés une fois pour toutes, mais c'est ça qui est essentiel, ne pensons pas qu'il y a des blocs, un bloc contre un autre.
Christophe Ayad.
Et moi je nuancerai quand même, parce qu'il y a un ensemble chiite politique qui est assez cohérent, dirigé par l'Iran, et qui a des ambitions et qui sait où il veut aller. Et il y a un pôle sunnite qui est tiraillé entre plusieurs puissances et plusieurs tendances. Ce qui me frappe chez les Russes, c'est que on les aligne avec les chiites, d'une certaine manière, enfin avec Téhéran, l'Irak et le Hezbollah. Mais c'est le cas sur la Syrie, c'est peut-être que le cas sur l'Irak. Ce n'est pas le cas sur d'autres choses. En fait, les Russes, ils ont une politique de retour, et partout où les Américains s'affaiblissent, ils viennent. Or, qui s'est fâché avec les États-Unis? Bon, à peu près tout le monde, mais notamment très très fort ces dernières années, c'est les Égyptiens. Sisi. Ils n'ont pas supporté la trop grande gentillesse de l'administration américaine envers les frères musulmans. Sisi, pour donner des signes, a engagé une sorte de relation avec Poutine. Et d'ailleurs, finalement, ils ont beaucoup pour s'entendre. Ils ont une conception de la démocratie assez proche.
Il l'a restauré surtout.
Voilà. Et vous avez la même chose avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est très très en froid avec les Américains pour plein de raisons. C'est une tendance de fond militaire, politique, pétrolière. Et il y a un dialogue qui s'est noué entre les Saoudiens et les Russes cet été notamment. Il y a eu des échanges intenses et je pense qu'il a beaucoup été de question de la Syrie. Et effectivement, ce qui est étonnant cette semaine, c'est la relative modération de la réaction saoudienne, qui est beaucoup plus hystérique généralement lorsque Téhéran est là. Donc il y a un jeu russe qui est assez personnel et qui peut avoir plusieurs dimensions au Proche-Orient, et on revient à avant 1979 d'une certaine manière, ou avant 91 disons.
On parlera de l'Iran dans la deuxième partie de l'émission.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités à Nantes, où se tient la troisième édition des Géopolitiques de Nantes, à l'initiative de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Nous retrouvons donc Yves Aubin de la Messusière, ancien ambassadeur de France, spécialiste du Proche-Orient et président de la mission laïque française. Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS. Kader Haït Abderrahim, historien et chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme, et Christophe Ayad, chef du service international au quotidien Le Monde. L'Iran, je le disais en fin de première partie, qui s'est empressé d'apporter son soutien public et sans réserve à l'action de Moscou. Qu'est-ce que l'on sait des intentions de l'Iran? Des centaines de soldats iraniens seraient entrés en Syrie ces derniers jours. Quelle est l'option choisie par Téhéran, Yves Aubin de la Messusière, dans cette question et cette nouvelle donne apportée cette semaine avec l'intervention de la Russie?
Donc la Syrie est un point d'appui de l'Iran déjà très ancien. Et il ne faut pas y voir, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, une coloration, disons, proprement chiite. Parce que les Alaouites, que j'ai bien connus lorsque j'étais en poste, s'éloignent totalement, d'ailleurs comme les haïdites du Yémen, du chiisme, du haut-décimain, septimain, mais il y a quand même une tendance, je reviens à ce que vous disiez là tout à l'heure, une tendance à chiiser en quelque sorte, il y a une forme de chiisation des haïdites et voire des houthis, des haïdites au Yémen et donc des alaouites. Et voilà, donc c'est un appui donc essentiel, et puis l'Iran, comme les Russes, donc, sont dans la défense du régime de Bachar el-Assad, avec une intervention et surtout un encadrement, y compris dans les services de sécurité, y compris au niveau politique. Et c'est pour ça que, moi, j'ai toujours estimé que maintenant, depuis une année, deux années, Bachar el-Assad n'est plus le maître de Damas, et qu'il y avait une dépendance à l'égard de l'Iran. Maintenant, il y a un rééquilibrage. D'ailleurs, on peut se demander dans quelles relations se trouvent à la fois l'Iran et la Russie, qui peuvent se trouver aussi, d'une manière ou d'une autre, en forme de concurrence.
Rivalité.
De rivalité. Et voilà, donc, on avait pensé à un moment que, après la signature de l'accord nucléaire, quelle politique de l'Iran dans la région? Et on pensait à une certaine sagesse, parce que on connaît l'Iran, enfin, il y a une sagesse iranienne, une sagesse persane. Or, pas du tout. D'une manière très claire et pour des différentes raisons. D'abord, la Syrie, eh bien, c'est donc les gardiens de la révolution, les Pasdaran, donc, qui sont, on peut dire, les gardiens de la doctrine, hein, s'agissant de la présence et de l'influence iranienne en Syrie. Et je ne pense pas à un désengagement, au contraire. Et là, il y a peut-être un risque d'escalade si, effectivement, il y a de plus en plus de Pasdaran qui vont être dans les forces combattantes. Et alors, dans les relations avec l'Occident, et je pense encore une fois avec les États-Unis, on ne sera pas non plus dans la confrontation, parce que l'objectif de Barack Obama, c'est la consolidation de l'accord nucléaire, et donc pas de problème avec l'Iran.
Alors, on en viendra bien sûr à la question états-unienne. Alors, la question qui se pose, c'est effectivement coalition Moscou-Téhéran ou rivalité que vous évoquiez, Yves Aubin de la Messusière. En tout cas, c'est une partie délicate qui se joue pour Téhéran, Didier Billion.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est délicat pour tout le monde.
Mais du fait de l'accord sur le nucléaire iranien, surtout en ce moment, c'est ce que j'entendais.
Je pense que Yves Aubin de la Messusière l'exprime bien, c'est qu'en réalité, il y a plusieurs centres de décision politique en Iran, et que les Pasdaran n'ont pas approuvé massivement l'accord sur le nucléaire. Pour une raison simple, c'est que la réinsertion de l'Iran dans le jeu international risque de leur coûter cher, mais quand je le dis leur coûter cher, c'est en termes matériels et économiques.
Ils n'ont pas intérêt économiquement.
Bon. Donc, il y a une rivalité. Qui remportera victoire dans ce processus engagé? Nul ne le sait. Par contre, l'équipe autour du président Rouhani, c'est la possibilité de se réintégrer dans le jeu régional et internationale, et lui n'a aucun intérêt à faire de surenchère. Donc il y a un bras de fer au sein de l'appareil étatique iranien, dont nul ne peut prévoir l'issue, encore une fois, mais qui évidemment complexifie encore la situation. Donc certains sont tout attachés à la réinsertion de l'Iran dans le jeu régional, et donc ne cherchent pas à faire de vagues supplémentaires en Syrie, si vous me passez l'expression. Les passes d'Aran, pour leur part, auraient peut-être plutôt intérêt à aller de l'avant, à renforcer leur présence, pour éviter que, justement, leurs intérêts ne passent sous la table.
Tapis.
Christophe Ayad.
Ouais, mais ce qui est en jeu, quand même, pour l'Iran, et là, je pense que ça dépasse seulement le lobby passe d'Aran, c'est la question du Hezbollah. C'est-à-dire que si la Syrie tombe, ou si un régime non favorable ou pas intrinsèquement lié au Hezbollah comme l'est actuellement le régime Assad.
Alors les États-Unis, si vous voulez bien, est-ce que le retour en force de Poutine signe l'échec de la politique américaine et au demeurant française aussi? Et finalement, que peuvent faire les Américains? Est-ce qu'ils peuvent rester à l'écart? Christophe Ayad.
Je vois pas bien ce que les Américains peuvent faire, étant donné les limites que Obama a tracées à l'action américaine dans cette région et à l'agenda qu'il n'a cessé de confirmer, qui est un agenda très réaliste de retrait de tout ce qui n'est pas en intérêt vital. L'affaire irakienne était un désastre. Alors moi, je considère à titre personnel que le retrait des États-Unis était l'invasion était un désastre, le retrait aussi.
Parce qu'ils
n'auraient jamais dû envahir, mais ils se sont retirés trop tôt. Mais bon, pour Obama, d'une certaine manière, le démembrement de l'Irak n'est pas réellement un problème. Enfin, il pourrait le finir par l'être à terme, mais lui sera plus au pouvoir. Donc c'est pas lui qui le gérera. N'est pas un problème immédiat qui menace directement les intérêts ou la vie des citoyens américains. Partout, et or, il se trouve face à un acteur qui, partout où les États-Unis reculent, Poutine lui avance. Donc il occupe tous les vides, tous les malentendus, tous les désaccords, et en plus en Syrie, je ne vois pas bien comment ni François Hollande ni Barack Obama, qui ne sont pas tout à fait d'accord d'ailleurs, ne pourraient agir, parce que justement il y a un désalignement complet de leur. Si vous regardez, il y a trois étages en Syrie. Il y a l'acteur sur le terrain, c'est Bachar el-Assad, les rebelles. Il y a l'acteur régional, c'est l'Iran.
L'Arabie Saoudite,
Turquie, Qatar. Et puis, il y a l'acteur international, États-Unis, Russie. Côté Bachar, Russie, Iran, tout le monde est aligné. Et tout le monde est sur le terrain. Alors, avec une armée syrienne qui est désastreuse, qui, depuis 4 ans, est incapable de contrôler son pays, ne passe pas son temps à reculer et à perdre des hommes. Mais côté en face, vous avez ces rebelles qui, alors, sont certes assez résilients, mais enfin totalement désunis, avec des sensibilités très très différentes, qui passent leur temps à se massacrer entre eux. Si on commençait à compter les pertes inter-rebelles, on verrait des résultats assez énormes. Ensuite, au niveau régional, vous avez l'Arabie Saoudite qui n'est pas très très présente. Ni la Turquie ni le Qatar qui ne sont présents directement, ils sont présents par des proxys, enfin où on a des acteurs de ils financent des gens qui eux-mêmes revendent leurs armes, et puis au niveau international, les États-Unis passent leur temps à entraver l'action des rebelles qu'ils ont formés ou soutenus et passent leur temps à les monter les uns contre les autres. Donc évidemment, vous avez un camp qui est aligné et puis l'autre qui est complètement dans le désordre.
Alors sur le rôle à attendre des États-Unis, Didier Lignon?
Il y a un paramètre très important. Je pense que, pour les raisons excellemment exposées par Christophe Ayad, les États-Unis regardent la région avec beaucoup de précautions désormais. La succession d'échecs est quand même lourde à gérer. Et on voit bien que l'administration Obama a mis tout son poids, toute sa volonté, toute son énergie pour parvenir à l'accord avec l'Iran. Ils y sont parvenus. Alors maintenant, il y a une course de vitesse. Les élections présidentielles aux États-Unis, c'est dans un an.
Novembre 2016.
Donc il faut avancer au maximum pour consolider, renouer tout d'abord et consolider les liens avec l'Iran. De ce point de vue d'ailleurs, les entrepreneurs états-uniens ont été les premiers à venir sur Téhéran. Après l'embargo, après les sanctions, ils sont les premiers et ils vont faire du business. Je ne suis pas pour cette méthode, mais c'est ainsi. Donc je pense qu'ils vont concentrer leurs efforts sur la solidification des relations avec Téhéran. Alors avec une inconnue, c'est qui sera le vainqueur des prochaines élections présidentielles. Si ce sont les Républicains, ça va modifier la donne dans les relations avec l'Iran. Sur la France, alors là, véritablement deux mots, je serai particulièrement sévère. C'est-à-dire que la France de M. Hollande, elle a tout faux. Elle essaie de se raccrocher à une politique qui s'est avérée radicalement erronée et qu'aujourd'hui, le président Hollande, ça je puis le comprendre éventuellement, il ne peut pas totalement se dédire. Donc il lui faut, par des circonvolutions, expliquer que nous participons désormais aux opérations militaires contre la Syrie parce que nous sommes en état de légitime défense, article 51. Enfin, ça pourrait faire rire si l'enjeu n'était pas si grave.
Yves Aubin de la Messusière.
Bon, je serai moins sévère, peut-être parce que je suis un ancien diplomate, sur l'action menée par la France en Syrie. Moi, j'y vois une certaine cohérence, puisqu'il y a une intervention donc en Irak contre Daesh, contre l'État islamique, qu'on ne peut pas diviser. Donc, c'est aussi, nécessaire d'intervenir aussi pour la cohérence de notre action militaire. Moi, je la trouve plutôt vertueuse. C'est passé inaperçu. Il y a eu deux initiatives. Donc, et c'est d'abord la fermeté de François Hollande vis-à-vis de Bachar el-Assad. On l'a pas entendu autant de la part des autres partenaires européens, voire américains. Et puis il y a eu cette initiative prise par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, proposant une réforme tout à fait importante aux Nations Unies, limitant le droit de veto au Conseil de sécurité quand il s'agit de drames humanitaires et quand il s'agit de crimes contre l'humanité. Et puis aussi une autre initiative qui a été prise quand on a demandé au parquet de lancer une enquête préliminaire concernant les crimes commis par le régime de Damas. Donc il sera difficile, même si la France est parmi les intervenants, alors effectivement sa valeur ajoutée sur le plan opérationnel, sur le plan militaire, plutôt limitée, hein, parce que on verra par rapport, bien entendu, aux Américains et par rapport maintenant aux Russes. Mais ça peut lui donner une certaine légitimité aussi pour participer le moment venu à une solution politique qui, de toute façon, je ne sais pas si on en parlera, il n'y a aucune visibilité, bien entendu, aucune perspective de véritable solution politique, même s'il y a un accord avec les principaux acteurs régionaux et les acteurs internationaux, en raison même de la situation sur le terrain.
En tout cas, et de l'avis des participants à cette première journée des géopolitiques de Nantes, ce conflit a toutes les chances, malheureusement, de durer encore longtemps. 5 ans de guerre civile en Syrie aujourd'hui. Kader Haït Abderrahim, il a été question, justement à Nantes, de la question libyenne, avec ce lien qui est fait, selon lequel le peuple syrien paierait aujourd'hui ce qui a été fait en Libye, sur le plan international. Vous partagez ce sentiment ?
Dans le jeu des grandes puissances, on a toujours utilisé des proxys, évidemment, et pour la Syrie, comme pour la Libye, comme pour d'autres situations, comme pour les Afghans en 2001, les intérêts priment souvent la morale, voire même la diplomatie, n'en déplaise à Yves Aubin, mais c'est une réalité terrible qu'il faut aujourd'hui, à laquelle il faut faire face. Dans le cas de la Libye, c'est tellement caricatural que c'est une tragédie absolue, parce que on s'engage dans une guerre avec nos alliés britanniques, avec un mandat des Nations Unies, pas d'intervention au sol, disait ce mandat, et puis finalement on se rend compte que tout est fait dans le désordre, et puis surtout il n'y a pas de projet politique. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et en réalité, sans le dire, on reprend cette acception bushienne d'exporter la démocratie, de l'imposer par le haut. Or, on voit que ça n'a pas marché, que ça ne fonctionne pas, et que, au contraire, ça ajoute de la confusion à la confusion, et ça provoque des drames terribles qu'on voit aujourd'hui, parce que ce dont on parle en France depuis 2 ou 3 semaines, la question des réfugiés notamment, qui nous concerne très directement dans la société française, c'est une des conséquences de la guerre en Libye. C'est une des conséquences de l'instabilité. On peut penser tout ce qu'on veut de Mohamed Kadhafi, mais on lui avait assigné une fonction. Cette fonction, c'était celle de la régulation. hein, des migrants qui passaient ou ne passaient pas selon ses humeurs du colonel Kadhafi. Aujourd'hui, il n'y a plus de régulation parce qu'il n'y a pas de dialogue, parce que le pays est dans le chaos et qu'on est dans la guerre civile et qu'il n'y a jamais réellement eu d'institution légitime dans ce pays. Et donc, en réalité, pour faire un lien avec la Syrie, je crois que l'un des grands messages, enfin moi je me souviens très clairement de ça, j'entendais partout dans le monde arabe, de 2011, on l'appelle comme on veut, printemps, révolution, etc. En tout cas, c'est des grandes mobilisations populaires. C'était qu'il faut se battre pour arracher des espaces démocratiques. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis peut-être aujourd'hui, malgré les tragédies qu'on vit un peu partout dans le monde arabe, un peu moins pessimiste que je l'étais avant l'été. C'est qu'en réalité, les peuples ont la sagesse de comprendre, tout seul, intuitivement, parce que c'est leur réalité et que c'est leur intérêt, que Daesh est un frein à ces évolutions démocratiques et que non seulement c'est un frein, mais il grignote le peu d'espace démocratique qu'on avait pu gagner ici ou là. Alors dans le cas de la Syrie, malheureusement, ça n'a jamais été une réalité, ou l'Irak, mais au Maghreb, c'était un peu différent quand même. Et je crois que le fait qu'aujourd'hui, que Daesh, après avoir progressé très vite en Libye, en conquérant à peu près 20% du territoire, notamment dans l'Ouest, stoppe cette progression, c'est parce qu'il n'a plus de soutien. C'est parce que les Libyens se disent « c'est pas mon intérêt ». Et malgré le tribalisme qui règne, la marché dans ce pays, pas de réelle institution, jamais eu vraiment d'État, les gens commencent à se dire que non, c'est pas un allié. Non seulement c'est pas un allié, mais en plus il est dangereux pour nous. Et dans l'ensemble de la région aujourd'hui, au Maghreb, on essaie de se préserver de ce qui se passe au Moyen-Orient. Parce qu'il y a quand même une grande différence, je crois, qu'elle est importante à souligner. C'est qu'il y a un ensemble, je parle des trois grands pays du Maghreb central, Algérie, Maroc, Tunisie, il y a un ensemble cohérent. Alors évidemment, les choses sont bloquées par la question du Sahara, donc on n'arrive pas réellement à faire d'intégration régionale. Mais il y a un ensemble linguistique, culturel et géographique. Et tout cela... Et il y a un ciment à tout cela, c'est le continuum berbère à travers les trois pays. Donc il y a une vraie cohérence qui est beaucoup plus compliquée à trouver au Moyen-Orient. Et si on peut arriver à très vite, je pense, circonscrire et mettre fin à la guerre civile en Libye, ce qui de mon point de vue est possible, et notamment serait possible par une action diplomatique de la France, dont je ne comprends pas pourquoi on ne s'implique pas aujourd'hui davantage, puisqu'on pourrait dire que l'actuel président de la République n'est pas responsable de la guerre qui a été déclenchée par son prédécesseur en 2011. La France aujourd'hui entretient des relations diplomatiques idylliques avec les cinq principaux acteurs de la guerre en Libye, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, l'Égypte et l'Algérie. Avec ces cinq pays-là auxquels nous vendons des rafales, des avions, des frégates, ou avec lesquels on a des relations diplomatiques importantes, nous avons une carte diplomatique à jouer afin de leur demander de faire pression sur les belligérants, d'abord dans un premier temps pour arrêter la guerre, et puis pour parvenir à un véritable accord de paix, parce que ça traîne au Maroc depuis maintenant près d'un an, et qu'on ne voit toujours pas d'issue diplomatique ou politique. Donc je crois que la France, de ce point de vue-là, a une carte à jouer, et ma grande question depuis des mois, c'est pourquoi on ne la joue pas.
Alors je la pose cette question à Yves Aubin de la Messuzière pour conclure cette émission très rapidement, en quelques secondes.
Vous avez tout à fait raison, puisque quelle est la perception qu'on a de l'action de la France dans le monde arabe en général? Elle apparaît comme une puissance de guerre. Et d'ailleurs, il y a l'image du président de la République que l'on voit dans la presse, dans certaines caricatures, dans la presse arabe, chef de guerre. Alors effectivement, ça peut choquer un diplomate hein, comme moi. Mais Laurent Fabius, dans ses différents discours, parle de la France puissance de paix. Alors il y a effectivement deux dossiers, il y a un principal aussi, c'est le conflit israélo-palestinien, où la France devrait agir davantage. Mais vous avez tout à fait raison, parce que le Maghreb, et la Libye fait partie du Maghreb, c'est notre proximité immédiate, et là, il y a certainement un espace pour la diplomatie française, vous avez tout à fait raison, j'adhère, pour pouvoir agir avec les autres pays de la région.
Merci. C'est la fin de Géopolitique enregistrée à Nantes dans le cadre de la troisième édition des Géopolitiques de Nantes. Merci à nos invités Yves Aubin de la Messuzière, ancien ambassadeur de France, spécialiste du Proche-Orient et président actuellement de la mission laïque française, Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, Kader Haït Abderrahim, historien et chercheur associé à l'IRIS et spécialiste du Maghreb et de l'islamisme, et Christophe Fayad, chef du service international au quotidien Le Monde. Géopolitique était signé Marie-France Chatin et Richard Rifono à Nantes, Véronique Durand et Boris Vichit à Paris. Demain, Géopolitique sera consacré aux États-Unis. Bilan de la politique étrangère de Barack Obama à un an des présidentielles de novembre 2016. À demain.